Aristote, Métaphysique, livre 3, chapitre 4. Il y a une difficulté qui se rattache aux précédentes, difficulté plus embarrassante que toutes les autres et dont l'examen nous est indispensable. C'est celle dont nous allons parler. S'il n'y a pas quelque chose en dehors du particulier, et s'il y a une infinité de choses particulières, comment est-il possible d'acquérir la science de l'infinité des choses? Connaître un objet, c'est pour nous connaître son unité, son identité et son caractère général. Or, si cela est nécessaire, et s'il faut qu'en dehors des choses particulières il y ait quelque chose, il y aura nécessairement, en dehors des choses particulières, les genres, soit les genres les plus rapprochés des individus, soit les genres les plus élevés. Mais nous avons trouvé tout à l'heure que cela était possible. Admettons d'ailleurs qu'il y a véritablement quelque chose en dehors de l'ensemble de l'attribut et de la substance. Admettons qu'il y a des espèces. Mais l'espèce est-elle quelque chose en dehors de tous les objets, ou est-elle seulement en dehors de quelques objets, sans être en dehors de quelques autres, ou enfin, n'est-elle en dehors d'aucun? Dirons-nous donc qu'il n'y a rien en dehors de choses particulières? Alors il n'y aurait rien d'intelligible, et il n'y aurait plus que des objets sensibles. Il n'y aurait de science de rien, à moins qu'on ne nomme science la connaissance sensible. Il n'y aurait même rien d'éternel ni d'immobile, car tous les objets sensibles sont sujets à destruction et sont en mouvement. Or, s'il n'y a rien d'éternel, la production même est impossible, car il faut bien que ce qui devient soit quelque chose, ainsi que ce qui fait devenir, et que la dernière des causes productrices soit de tout temps, puisque la chaîne des causes a un terme, et qu'il est impossible que rien soit produit par le non-être. D'ailleurs, là où il y a naissance et mouvement, il y aura nécessairement un terme. Aucun mouvement n'est infini, et même tout mouvement a un but. Et puis, il est impossible que ce qui ne peut devenir devienne. Mais ce qui devient existe nécessairement avant de devenir. De plus, si la substance existe de tout temps, à plus forte raison faut-il admettre l'existence de l'essence au moment où la substance devient. En effet, s'il n'y a ni essence ni substance, il n'existe absolument rien. Et comme cela est impossible, il faut bien que la forme et l'essence soient quelque chose, en dehors de l'ensemble de la substance et de la forme. Mais si l'on adopte cette conclusion, une nouvelle difficulté se présente. Dans quel cas admettra-t-on cette existence séparée? Et dans quel cas ne l'admettra-t-on point? Car il est évident qu'on ne l'admettra pas dans tous les cas. En effet, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une maison en dehors des maisons particulières. Ce n'est pas tout. La substance de tous les êtres est-elle une substance unique? La substance de tous les hommes est-elle unique, par exemple? Mais cela serait absurde, car tous les êtres n'étant pas un être unique, mais un grand nombre d'êtres et d'êtres différents, il n'est pas raisonnable qu'il n'ait qu'une seule substance. Et d'ailleurs, comment la substance de tous ces êtres devient-elle chacun d'eux? Et comment la réunion de ces deux choses, l'essence et la substance, constitue-t-elle l'individu? Voici une nouvelle difficulté relative au principe. S'ils n'ont que l'unité générique, rien ne sera un numériquement, ni l'unité elle-même, ni l'être lui-même. Et alors, comment la science pourra-t-elle exister puisqu'il n'y aura pas d'unité qui embrasse tous les êtres? Admettrons-nous donc leur unité numérique. Mais si chaque principe n'existe que comme unité, et que les principes n'aient aucun rapport entre eux, s'ils ne sont pas comme les choses sensibles. En effet, lorsque telle et telle syllabe sont de même espèce, leurs principes sont de même espèce, ces principes n'étant pas réduits à l'unité numérique. S'il n'en est pas ainsi, si les principes des êtres sont réduits à l'unité numérique, il n'existera rien autre chose que les éléments. 1. Numériquement ou individuel, c'est la même chose, puisque nous appelons individuel ce qui est un par le nombre. L'universel, au contraire, c'est ce qui est dans tous les individus. Si donc les éléments du mot avaient pour caractère l'unité numérique, il y aurait nécessairement un nombre de lettres égal, en somme, à celui des éléments du mot, n'y ayant aucune identité, ni entre deux, ni entre un plus grand nombre de ces éléments. Une difficulté qui ne le cède à aucune autre et qu'ont également laissé à l'écart et les philosophes d'aujourd'hui et leurs devanciers, c'est de savoir si les principes des choses périssables et ceux des choses impérissables sont les mêmes principes ou s'ils sont différents. Si les principes sont en effet les mêmes, comment se fait-il que parmi les êtres, les uns soient périssables et les autres impérissables? Et pour quelle raison en est-il ainsi? Hésiode et tous les théologiens n'ont cherché que ce qui pouvait les convaincre eux-mêmes et n'ont pas songé à nous. Des principes, ils font des dieux, et les dieux ont produit toutes choses. Puis, ils ajoutent que les êtres qui n'ont pas goûté le nectar et l'ambroisie sont destinés à périr. Ces explications avaient sans doute un sens pour eux. Quant à nous, nous ne comprenons même pas comment ils ont pu trouver là des causes. Car, si c'est en vue du plaisir que les êtres touchent à l'ambroisie et au nectar, le nectar et l'ambroisie ne sont nullement cause de l'existence. Si au contraire, c'est en vue de l'existence, comment ces êtres seraient-ils éternels puisqu'ils auraient besoin de nourriture? Mais nous n'avons pas besoin de soumettre à un examen approfondi des inventions fabuleuses. Adressons-nous donc à ceux qui raisonnent et se servent de démonstrations, et demandons-leur comment il se fait que, sortis des mêmes principes, quelques-uns des êtres ont une nature éternelle, tandis que les autres sont sujets à destruction. Or, comme ils ne nous apprennent pas quelle est la cause en question, et qu'il y a contradiction dans cet état de choses, il est clair que ni les principes ni les causes des êtres ne peuvent être les mêmes causes et les mêmes principes. Aussi, un philosophe qu'on croirait parfaitement d'accord avec lui-même dans sa doctrine, Empédocle, est-il tombé dans la même contradiction que les autres? Il pose en effet un principe, la discorde, comme cause de la destruction. Et cependant, on n'en voit pas moins ce principe engendrer tous les êtres, hormis l'unité. Car tous les êtres, excepté Dieu, sont produits par la discorde. Écoutons Empédocle. Telles furent les causes de ce qui fut, de ce qui est, de ce qui sera dans l'avenir, qui firent naître les arbres, et les hommes, et les femmes, et les bêtes sauvages, et les oiseaux, et les poissons qui vivent dans les ondes, et les dieux à la longue existence. Et même c'est là une opinion qui résulte de bien d'autres passages. S'il n'y avait pas dans les choses une discorde, tout, suivant Empédocle, serait réduit à l'unité. En effet, quand les choses sont réunies, alors s'élève enfin la discorde. Il suit de là que la divinité, l'être heureux par excellence, connaît moins que les autres êtres, car elle ne connaît pas tous les éléments. Elle n'a pas en elle la discorde. Et c'est le semblable qui connaît le semblable. Par la terre, dit Empédocle, nous voyons la terre, l'eau par l'eau, par l'air divin, et par le feu dévorant, l'amitié par l'amitié, la discorde par la discorde fatale. Il est donc manifeste, pour revenir au point d'où nous sommes partis, que la discorde chez ce philosophe est tout autant cause d'être que cause de destruction. De même, l'amitié est tout autant cause de destruction que d'être. En effet, quand elle réunit les êtres et les amène à l'unité, elle détruit tout ce qui n'est pas l'unité. Ajoutez qu'Empédocle n'assigne au changement lui-même aucune cause. Il dit seulement qu'il en fut ainsi. Alors que la puissante discorde grandit, et qu'elle se fût élancée pour s'emparer de ses honneurs au jour marqué par le temps qui se partage alternativement entre la discorde et l'amitié, le temps qui a précédé même le majestueux serment. Comme si le changement était nécessaire, mais il n'assigne pas de cause à cette nécessité. Toutefois, Empédocle a été d'accord avec lui-même en ce point qu'il admet non pas que parmi les êtres les uns sont périssables, les autres impérissables, mais que tout est périssable excepté les éléments. La difficulté que nous nous étions proposée était celle-ci. Pourquoi, si tous les êtres viennent des mêmes principes, les uns sont-ils périssables, les autres impérissables? Or, ce que nous avons dit précédemment suffit pour montrer que les principes de tous les êtres ne sauraient être les mêmes. Mais, si les principes sont différents, une difficulté se présente. Seront-ils impérissables eux aussi ou périssables? Car, s'ils sont périssables, il est évident qu'ils viennent nécessairement eux-mêmes de quelque chose, puisque tout ce qui se détruit retourne à ses éléments. Il s'ensuit donc qu'il y aurait d'autres principes antérieurs aux principes mêmes. Or, cela est impossible, soit que la chaîne des causes ait une limite, soit qu'elle se prolonge à l'infini. D'ailleurs, si l'on anéantit les principes, comment y aura-t-il des êtres périssables? Et si les principes sont impérissables, pourquoi, parmi ces principes impérissables, les uns produisent-ils des êtres périssables et les autres des êtres impérissables? Cela n'est pas conséquent. C'est une chose impossible ou qui du moins demanderait de longues explications. Enfin, aucun philosophe n'a admis que les êtres eussent des principes différents. Tous, ils disent, que les principes de toutes choses sont les mêmes. Mais c'est qu'ils passent par-dessus la difficulté que nous nous sommes proposés et qu'ils la regardent comme un point peu important. Une question difficile entre toutes à l'examen et d'une importance capitale pour la connaissance de la vérité, c'est de savoir si l'être et l'unité sont substances des êtres. Si ces deux principes ne sont pas autre chose que l'unité et l'être, chacun de son côté. Ou bien, si nous devons nous demander qu'est-ce que l'être et l'unité, supposer qu'ils aient pour substance une nature autre qu'eux-mêmes. Car, telles sont sur ce sujet les diverses opinions des philosophes. Platon et les pythagoriciens prétendent en effet que l'être ni l'unité ne sont pas autre chose qu'eux-mêmes, que tel est leur caractère, l'unité en soi et l'être en soi, voilà, selon ces philosophes, ce qui constitue la substance des êtres. Les physiciens sont d'un autre avis. Empédocle, par exemple, comme pour ramener son principe à un terme plus connu, explique ce que c'est que l'unité. Car on peut conclure de ses paroles que l'être, c'est l'amitié. L'amitié est donc pour Empédocle la cause de l'unité de toutes les choses. D'autres prétendent que c'est le feu. D'autres que c'est l'air qui est cette unité. Et cet être d'où sortent tous les êtres et qui les a tous produits. Il en est de même de ceux-là encore qui ont admis la pluralité dans les éléments, car ils doivent nécessairement compter autant d'êtres et autant d'unités qu'ils reconnaissent de principe. Si l'on n'établit pas que l'unité et l'être soient une substance, il s'ensuit qu'il n'y a plus rien de général, puisque ces principes sont ce qu'il y a de plus général au monde, et que si l'unité en soi, si l'être en soi, ne sont pas quelque chose, à plus forte raison, n'y aura-t-il pas d'autres êtres en dehors de ce qu'on nomme le particulier. De plus, si l'unité n'était pas une substance, il est évident que le nombre même ne pourrait exister comme nature d'êtres séparés. En effet, le nombre se compose de monades, et la monade, c'est ce qui est un. Mais si l'unité en soi, si l'être en soi sont quelque chose, il faut bien qu'il soit la substance, car il n'y a rien, sinon l'unité et l'être, qui se disent universellement de tous les êtres. Mais si l'être en soi et l'unité en soi sont quelque chose, il nous sera bien difficile de concevoir comment il y aura quelque autre chose en dehors de l'unité et l'être, c'est-à-dire comment il y aura plus d'un être, puisque ce qui est autre chose que l'être n'est pas. Il s'ensuit donc nécessairement ce que disait Parménide, que tous les êtres se réduisent à un et que l'unité, c'est l'être. Mais c'est là une double difficulté, car que l'unité ne soit pas une substance ou qu'elle en soit une, il est également impossible que le nombre soit une substance. Impossible dans le premier cas, nous avons déjà dit pourquoi. Dans le second cas, même difficulté que pour l'être. D'où viendrait, en effet, une autre unité en dehors de l'unité. Car, dans le cas dont il s'agit, il y aurait nécessairement deux unités. Tous les êtres sont ou un seul être, ou une multitude d'êtres, si chaque être est une unité. Ce n'est pas tout encore. Si l'unité était indivisible, il n'y aurait absolument rien. Et c'est ce que pense Zénon. En effet, ce qui ne devient ni plus grand quand on lui ajoute, ni plus petit quand on lui retranche quelque chose, n'est pas selon lui un être, car la grandeur est évidemment l'essence de l'être. Et si la grandeur est son essence, l'être est corporel, car le corps est grandeur dans tous les sens. Or, comment ajouter aux êtres, la grandeur rendra-t-elle les uns plus grands sans produire cet effet sur les autres? Par exemple, comment le plan et la ligne grandiront-ils et jamais le point ni la monade? Toutefois, comme la conclusion de Zénon est un peu dure et que d'ailleurs il peut y avoir quelque chose d'indivisible, on répond à l'objection que dans le cas de la monade et du point, l'addition n'augmente pas l'étendue, mais le nombre. Mais alors, comment un seul ou même plusieurs êtres de cette nature formeront-ils une grandeur? Autant vaudrait prétendre que la ligne se compose de points, que si l'on admet que le nombre est, comme le disent quelques-uns, produit par l'unité elle-même et par une autre chose qui n'est pas unité, il n'en restera pas moins à chercher pourquoi et comment le produit est tantôt un nombre et tantôt une grandeur. Puisque le non-un, c'est l'inégalité, c'est la même nature dans les deux cas. En effet, on ne voit pas comment l'unité avec l'inégalité, ni comment un nombre avec elle, peuvent produire des grandeurs.